Chapitre 44. Les choses ont repris leur cours normal. Comment puis-je l'appeler normal? Mais par rapport à ce matin, c'est normal. Pour le déjeuner, il y avait un sandwich au fromage dans du pain noir, un verre de lait, du céleri en branche, des poires en conserve. Un déjeuner d'écolier. J'ai tout mangé, pas vite, mais en me délectant du goût, des saveurs succulentes à la langue. Maintenant, je vais faire des commissions, les mêmes que d'habitude. Je m'en réjouis même à l'avance. On peut trouver une certaine consolation dans la routine. Je sors par la porte de service, emprunte l'allée. Nick lave la voiture, sa casquette est posée de travers. Il ne me regarde pas. Nous évitons que nos regards se croisent ces jours-ci. Il trahirait sûrement quelque chose, même ici, en plein air, alors qu'il n'y a personne pour nous voir. J'attends de Glenn à l'angle de la rue. Elle est en retard. Enfin, je la vois qui arrive. Une forme de tissu blanc et rouge, semblable à un cerf-volant. Elle marche du pas mesuré que nous avons tout appris à respecter. Je la vois, et de prime abord ne remarque rien. Puis, comme elle s'approche, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas l'air bien. Elle est changée d'une manière indéfinissable. Elle n'est pas blessée, elle ne boite pas. C'est comme si elle avait rétréci. Puis, quand elle est encore plus près, je comprends. Ce n'est pas de Glenn. Elle est de la même taille, mais plus mince. Son visage est beige et non pas rose. Elle s'approche de moi, s'arrête. « Béni soit le fruit, » dit-elle. Visage impassible, corps guindé. Je réponds « Que le Seigneur ouvre. » J'essaie de ne pas manifester de surprise. « Vous devez être de Fred, » dit-elle. J'acquiesce et nous nous mettons en route. Je me demande « Que se passe-t-il ? » Je rumine dans ma tête, ce n'est pas bon signe. Qu'est-elle devenue ? Comment le savoir sans montrer trop d'inquiétude ? Nous ne sommes pas censés nouer des amitiés, des fidélités entre nous. J'essaie de me rappeler combien de temps il reste à De Glenn dans son poste actuel. Je dis « On nous a envoyé le beau temps ?» Je le reçois avec joie. Voix placide, plate, ne décelant rien. Nous passons le premier poste de contrôle sans échanger d'autres paroles. Elle est taciturne. Mais moi aussi. Est-ce qu'elle attend que j'entame la conversation, me découvre, ou est-ce une croyante absorbée dans des méditations intérieures? Je questionne. De Glenn a-t-elle été transférée déjà? Mais je sais qu'il n'en est rien. Je l'ai vue pas plus tard que ce matin, elle me l'aurait dit. Je suis De Glenn, répond la femme. Imitation parfaite. Et bien sûr, elle est de Glenn. La nouvelle, et l'autre, où qu'elle soit, n'est plus de Glenn. Je n'ai jamais su son vrai nom. C'est ainsi qu'on peut se perdre, dans un océan de noms. Il ne serait pas facile de la trouver, maintenant. Nous allons à lait et miel, et à tout viande, où j'achète du poulet. Et la nouvelle de Glenn, 3 livres de viande hachée. Il y a les files d'attente habituelles. Je vois plusieurs femmes que je reconnais, échange avec elles les signes infinitésimaux par lesquels nous nous montrons que nous sommes connus, au moins d'une personne, que nous existons encore. À la sortie de tout viande, je dis à la nouvelle de Glenn. Nous devrions aller au mur. Je ne sais pas ce que j'attends de cette initiative. C'est un moyen de sonder ses réactions, peut-être. Il me faut savoir si oui ou non, elle est l'une des nôtres. Si c'est le cas, si je peux m'en assurer, peut-être pourra-t-elle me dire ce qui est vraiment arrivé à De Glenn. « Comme vous voudrez, » dit-elle. « Est-ce de l'indifférence ou de la prudence ?» Sur le mur pendent les 3 femmes de ce matin, toujours vêtues de leurs robes, chaussées de leurs souliers, toujours la tête fourrée dans les sacs blancs. On leur a délié les bras. Ils sont raides et convenables à leur côté. La bleue est au milieu, les deux rouges de part et d'autre, quoique les couleurs ne soient plus aussi vives. Elles semblent s'être fanées, défraîchies, comme des papillons morts ou des poissons tropicaux, à se dessécher sur le rivage. Elles ont perdu leur brillant. Nous restons à les regarder en silence. Que ce soit pour nous un rappel, dit enfin la nouvelle de Glenn. D'abord, je ne dis rien, parce que j'essaie de deviner ce qu'elle veut dire. Elle pourrait vouloir dire que ceci est pour nous un rappel de l'injustice et de la brutalité du régime. Auquel cas, je devrais répondre oui. Ou elle pourrait vouloir dire l'inverse, que nous devrions nous rappeler de faire ce qu'on nous dit et de ne pas nous attirer d'ennuis, parce qu'alors, nous serons justement punis. Si c'est ce qu'elle entend, je devrais répondre « l'eau et soi ». Elle avait la voix douce, atone, pas d'indice de ce côté. Je prends un risque. Je réponds « oui ». Elle ne réagit pas, quoique je sente un éclair de blanc au bord de mon champ de vision, comme si elle m'avait jeté un bref coup d'œil. Un moment plus tard, nous faisons demi-tour et commençons la longue marche du retour en accordant notre pas à la manière réglementaire, de sorte que nous semblons être à l'unisson. Je me dis que je ferais peut-être mieux d'attendre avant de faire une autre tentative. Il est trop tôt pour insister. Sonder. Je devrais m'accorder une semaine ou deux, peut-être davantage, l'observer soigneusement, écouter les intonations de sa voix, les mots qui lui échappent, de la même manière que De Glenn m'écoutait. Maintenant que De Glenn est parti, je suis de nouveau en éveil. Ma torpeur s'est dissipée. Mon corps n'est plus destiné au seul plaisir. Il flaire le danger. Je ne dois pas être imprudente, je ne dois pas prendre de risques inutiles. Mais j'ai besoin de savoir. Je me retiens jusqu'à ce que nous ayons passé le dernier poste de contrôle et qu'il ne nous reste que quelques pâtés de maison à parcourir. Mais là, je ne peux plus me maîtriser. Je ne connaissais pas très bien De Glenn. Je veux dire, l'ancienne. Oh, dit-elle. Le fait qu'elle ait dit quelque chose, même de peu compromettant, m'encourage. Je ne la connaissais que depuis mai. Je sens ma peau devenir chaude, les battements de mon cœur s'accélérer. Situation délicate. D'une part, c'est un mensonge. Et comment passer de là au mot vital? Aux environs du 1er mai, il me semble. Ce qu'on appelait autrefois May Day. Ah oui? Dit-elle d'un ton léger, indifférent, menaçant. Ce n'est pas un terme dont je me souvienne. Cela m'étonne que vous ne l'ayez pas oublié. Vous devriez faire un effort. Elle s'interrompt. Pour vous débarrasser l'esprit de ce genre. Nouvelle pause. D'écho. Maintenant, je sens le froid me suinter sur la peau comme de l'eau. Elle est en train de me mettre en garde. Elle n'est pas des nôtres, mais elle sait. Je longe les derniers pâtés de maison dans la panique. J'ai été idiote une fois de plus. Pire qu'idiote. Cela ne m'était pas venu à l'esprit avant, mais... maintenant j'y pense, si De Glenn a été arrêtée, elle risque de parler, et entre autres, de moi. Elle parlera. Elle ne pourra pas s'en empêcher. Mais je me dis, je n'ai rien fait, en réalité. Tout ce que j'ai fait, c'est savoir. Tout ce que j'ai fait, c'est ne pas raconter. Ils savent où se trouve mon enfant. Et s'ils la font venir, menacent de lui faire quelque chose, devant moi, ou exécutent cette menace. Je ne peux pas supporter d'imaginer ce qu'il pourrait lui faire. Ou Luc. Et s'ils détiennent Luc. Ou ma mère. Ou Moira. Ou pratiquement n'importe qui. Mon Dieu, ne me force pas à choisir. Je ne serai pas capable de le supporter, je le sais. Moira avait raison à mon propos. Je dirai tout ce qu'ils veulent. J'incriminerai n'importe qui. C'est vrai, au premier cri, Au premier gémissement, je me transformerai en gelée, je confesserai n'importe quel crime, je finirai pendu à un crochet sur le mur. Je me disais souvent, baisse la tête et passe au travers. Ça ne sert à rien. C'est ainsi que je me parle à moi-même sur le chemin du retour. À l'angle de la rue, nous nous tournons l'une vers l'autre à la manière habituelle. Sous son œil, dit la nouvelle, perfide, de Glenn. Je réponds, sous son œil, en essayant de mettre de la ferveur dans ma voix, comme si cette comédie servait à quelque chose, maintenant que nous sommes allés jusque-là. Alors elle fait quelque chose d'étrange. Elle se penche en avant, si bien que les blanches œillères raides que nous portons sur la tête se touchent presque, que je vois ses yeux beige pâle de près et la délicate trame de rides de ses joues. Et elle chuchote très vite, d'une voix légère comme des feuilles sèches. Elle s'est pendue. Après la rédemption. Elle a vu le fourgon qui venait la chercher. Cela valait mieux. Puis elle s'éloigne et descend la rue.